Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les personnes atteintes d'albinisme vivent sous une double menace. La première, c'est le soleil. Ces rayons ultraviolets contre lesquels la peau comme les yeux dépourvus de mélanine ne sont pas protégés. Photophobie, risque de brûlure, de cancer de la peau. Yeux, cheveux, peau dépigmentée, c'est selon, la teinte peut être sélective et en fonction des individus aussi, l'impact sur l'acuité visuelle pourra être plus ou moins prononcé. Double menace pour les personnes albinoses, donc avec comme deuxième fardeau de cette anomalie génétique, la stigmatisation amplifiée par l'ignorance. Le regard que portent les autres sur cette différence visible, curiosité, moquerie. Mais dans certaines régions du monde, au-delà de la discrimination, l'albinisme est associé à de fausses croyances et des superstitions aux conséquences tragiques ou criminelles. Où l'albino s'est considéré comme un organisme pourvoyeur de fétiches, avec à la clé des enlèvements et des assassinats d'enfants le plus souvent. C'est donc à la fois pour lutter contre ces superstitions et leurs conséquences épouvantables et prévenir les risques sanitaires liés à cette maladie que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé ce 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Atteinte oculaire et dermatologique de l'albinisme avec nous en studio, docteur Christophe Orso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ophtalmologue, neuro-ophtalmologue, responsable de l'unité fonctionnelle d'ophtalmologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Nous allons joindre dans quelques instants le docteur Astou Diouf-Kébé, dermatologue, vénérologue à l'Institut d'hygiène sociale, chargé de la consultation thématique albinisme à Dakar, au Sénégal. Avec nous, deux personnes concernées directement par l'albinisme. Nantena Keïta, bonjour.
Bonjour.
Championne paralympique sur 400 mètres aux Jeux d'été de 2016 à Rio. Vous êtes la fille du chanteur malien que nos auditeurs connaissent bien, Salif Keïta, dont vous présidez la fondation depuis 2014, Fondation pour les albinos au Mali. Et puis en studio avec nous, Aurélie Krop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la mère d'un enfant atteint d'albinisme. Votre fils a quel âge ?
4 ans.
On en reparlera tout à l'heure. Vos questions, vos témoignages, bien sûr, n'hésitez pas à appeler Priorité Santé. Notre numéro, c'est le 33 84 22 75 75. Et en fin d'émission, vous retrouverez la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité Santé sur RFI.
Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Alors, un double impératif pour cette date du 13 juin. Les questions sanitaires comme celles des droits de la personne, puisqu'on l'a dit, ces deux problématiques sont indissociables lorsque l'on évoque l'albinisme. Journée d'information, de prévention aussi, avec tout d'abord en ligne de Dakar, docteur Astou Diouf-Kébé, bonjour.
Oui, bonjour, Caroline.
On vous retrouve, dermatologue donc chargé de cette consultation thématique albinisme à Dakar. Pour rappeler un petit peu le béaba de la maladie, maladie génétique, dépigmentation, qui peut donc concerner différentes parties du corps.
Oui.
Pour les personnes que vous recevez en consultation, le motif principal, c'est quoi ? Ce sont les atteintes oculaires ou plutôt les atteintes dermatologiques ?
C'est plutôt les atteintes dermatologiques.
Avec quelle pathologie en particulier que vous êtes appelée à prendre en charge ?
Bon, particulièrement, c'est les cancers cutanés. Il faut noter donc, que les patients donc, ils viennent consulter tardivement. Donc, ils attendent vraiment que le cancer soit là, avéré, pour venir consulter.
Ça veut dire qu'avant, quand ces personnes souffrent de brûlures, qu'ils peuvent considérer comme superficielles, de taches, ce n'est pas suffisant à leurs yeux, docteur Diouf-Kébé, pour aller justement vous rencontrer en consultation ?
C'est vrai, on en rencontre également. Donc, on en rencontre également des personnes qui viennent consulter donc, pour des taches ou un rat, pour des brûlures solaires. On en rencontre également.
Alors un point essentiel, on va le dire tout au long de cette émission, un point essentiel c'est bien évidemment la prévention. Docteur Astoudiouf Kébé, comment prévenir ces atteintes? Vous dites les gens viennent entre guillemets quand c'est un peu trop tard, il faut venir avant. Mais avant cela, quand on a un enfant albinos, surtout quand on vit dans une zone très ensoleillée comme l'Afrique subsaharienne, comment on protège cet enfant?
D'accord. Donc, il est donc le cancer cutané, donc évitable. Donc, cancer évitable par.
Docteur Kébé, je suis navrée, on va être obligé de s'interrompre, mais vous inquiétez pas, on va reprendre cette conversation dès qu'on aura une ligne de meilleure qualité au niveau technique, parce que ces explications sont très importantes et bien évidemment. On va vous retrouver dans quelques instants hein, pour aborder justement ces questions des atteintes dermatologiques et de la prévention de ces atteintes. Nantena Keïta, première question sur un mot que j'ai déjà employé à plusieurs reprises. Ce mot, c'est albinos. Comment vous percevez ce terme personnellement? Est-ce que ça vous gêne quand on vous dit albinos ou est-ce que ça vous va?
Bonjour. Moi, je n'ai aucun souci avec ce terme-là. Alors c'est vrai que souvent on dit personne atteinte d'albinisme. Moi, autant sur personne en situation de handicap et personne handicapée, je peux faire une petite nuance, une petite différence. Autant sur personne atteinte d'albinos et personne albinos, je ne vois aucune différence tant que le mot albinos n'est pas employé
dans un terme péjoratif.
Exactement.
Et surtout détourné peut-être de son usage, c'est-à-dire désigner quelqu'un d'albinos lorsqu'il ne l'est pas en réalité.
Voilà. C'est ça.
C'est en général les termes liés à la maladie qu'on utilise à tort et à travers et qui stigmatisent au contraire les personnes qui souffrent réellement de cette atteinte. Alors Nantena Keïta, est-ce que vous pouvez décrire aux auditeurs l'impact qu'a l'albinisme simplement sur votre état de santé?
Alors sur mon état de santé, à part le soleil. Enfin, à part.
C'est essentiel quand même.
Voilà, il va y avoir deux facteurs. Il va y avoir le facteur effectivement dermatologique, donc avec la protection contre le soleil, qui est hyper importante, et aussi la vue, qui au quotidien, en fait, j'ai une basse vision. Vous le dira tout à l'heure, l'ophtalmo, une certaine sensibilité au soleil et à la lumière. Donc, effectivement, je porte régulièrement des lunettes de soleil, mais c'est pas mal parce que ça fait un petit style. Moi, personnellement, je ne porte pas de lunettes de vue parce que j'ai un champ visuel qui est un peu réduit et du coup, je vois mieux sur le côté. Donc quand je mets des lunettes de vue, les montures de la lunette me gênent au quotidien. Et en fait, j'ai vécu sans lunettes et j'ai toujours vécu en regardant sur le côté. Aujourd'hui, j'ai pris tellement d'automatisme que me mettre des lunettes de vue qui couperaient mon champ visuel m'handicaperait encore plus. Donc voilà, je me débrouille sans lunettes de vue. Mais on arrive à s'adapter tellement.
C'est ça, c'est ce mot d'adaptation. Vous dites je me débrouille, je m'adapte.
Oui.
Vous dépassez en fait le problème.
Voilà. Alors ça, c'est à double tranchant parce que du coup les gens vont se dire bon bah finalement t'as aucun problème.
Non.
Tu te déplaces toute seule. Enfin oui non c'est pas ça. C'est juste que je prends tellement d'informations qu'une personne dite bienvoyante ne va pas. Enfin, des informations auxquelles les personnes dites bienvoyantes ne vont pas faire attention. Voilà. Moi, quand je suis arrivée, tout de suite, j'ai regardé, par exemple, la couleur de la veste de la personne que je devais suivre. Ça, c'est quelque chose que vous ne faites pas, sauf si vous êtes accro à la mode. Mais voilà, c'est des petits repères que je vais prendre, des petites informations que je vais prendre pour pouvoir me débrouiller dans la vie de tous les jours.
Aurélie Kropp, je disais tout à l'heure, vous êtes la maman d'un garçon atteint d'albinisme. Pour nos auditeurs qui n'ont pas d'image, je précise que votre peau est blanche, donc que vous êtes de type caucasien, parce que il y a notamment en Afrique des personnes qui ignorent qu'il y a des personnes blanches dont les enfants ou les antécédents sont également albinos. Quand est-ce que vous avez su que votre enfant était atteint d'albinisme?
On l'a su quand il a eu 2 mois et demi, lors d'un examen justement ophtalmologique, parce qu'il a ses yeux balayés, en fait c'est un symptôme de l'albinisme, le nystagmus, mais on ne s'est pas du tout projeté là-dedans, ça ne nous est pas venu à l'esprit une seconde jusqu'à ce qu'on ait le diagnostic.
Et qu'est-ce que vous saviez à ce moment-là, quand le médecin justement pose ce diagnostic, qu'est-ce que vous saviez de l'albinisme?
Je ne savais pas qu'il y avait des personnes blanches qui pouvaient en être atteintes, justement. Et puis, c'est vrai que j'avais des images un peu ce qu'on voit dans les médias à chaque fois, donc il y a tout le côté négatif, tout ce qui se passe en Afrique avec les
menaces pour la vie des personnes albinos. Et sur la vie de votre fils en termes de santé, Nantena Keïta a décrit la protection de sa peau, les problèmes de vue que vous avez vous aussi évoqués. Quel est son impact à l'âge de 4 ans, un petit garçon qui va bientôt apprendre à lire? Qu'est-ce que ça change pour lui?
Nous, en fait, donc 6 mois par an, c'est la crème solaire tous les matins. Donc il rechigne un peu... Comme n'importe quel enfant, déjà, faut s'habiller le matin. Si en plus il y a la crème, ça rallonge le temps. Après, à l'école, on était plus inquiets que ce qui se passe dans la réalité, puisqu'il se débrouille très bien. Effectivement, je pense qu'il met en place plein de stratégies pour s'adapter. Et effectivement, au quotidien, à l'école, faut même leur rappeler de temps en temps que il est malvoyant, que quand ils vont au théâtre, il faut qu'ils soient devant, etc. Parce qu'il fait tellement tout comme les autres enfants que on s'en rend plus bien compte.
Mais vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, si je peux me permettre, j'ai eu un peu le même souci quand j'étais jeune. Entre guillemets, c'est que on a jamais bien vu. Donc moi, quand j'étais jeune, j'avais l'impression que tout le monde voyait comme moi. Je me disais pas qu'il y en a qui à 3 mètres voyait ce qu'il y avait. Enfin, pour moi, tout le monde avait la même vue.
Le monde était à votre vue.
Voilà. Et donc du coup, je pense que votre fils, ça doit être un peu pareil. Je pense qu'il a pas encore percuté,
surtout
qu'il y avait des choses un peu plus loin.
Mais surtout avec un environnement favorable, ça c'est aussi quelque chose de très important. Si l'entourage est bienveillant et fait tout pour laisser la place de cet enfant qui a malgré tout des différences, lui il va peut-être aussi grandir sans voir directement ses différences. C'est quelque chose pour une maman de dire mon enfant a cette différence, c'est quelque chose qui fait aussi approcher sa croissance d'une manière différente pour vous aujourd'hui entre... le diagnostic et aujourd'hui, les choses ont évolué par rapport à ça?
Oui, en fait, quand on a eu le diagnostic, donc c'était un tout petit bébé, c'était mon premier enfant, mais j'y connaissais rien du tout en bébé et en enfant. Et du coup, j'ai vraiment flippé tout de suite. Je me suis dit, il sera quasiment aveugle, je vais arrêter de travailler, il pourra rien faire. Et plus, en fait, il avance... Même pour ses premiers pas, j'étais stressée. Quand il a fait ses premiers pas, j'ai pleuré parce que je me suis dit, ça y est, il a fait à l'âge normal, tout va bien, il s'est marché. Et plus les étapes avancent, plus on se rend compte qu'en fait, tout se passe bien, que c'est même plus simple et plus normal, quoi. C'est le quotidien qui reprend le dessus. Bon, effectivement, il y aura l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. On n'y est pas encore, mais je pense qu'il faudra
adapter.
Adapter. Mais du coup, par rapport au tout début, où on s'en est fait des montagnes, il s'adapte très bien. L'école est bien faite aussi. Il y a des accompagnements. On fait des dossiers en début d'année pour que tout le monde sache, tout se passe bien.
Docteur Christophe Orson, on va justement s'arrêter sur ces atteintes visuelles, hein, parce que c'est un des troubles majeurs liés à l'albinisme. Anomalie de l'œil, tout ça, c'est toujours lié à la dépigmentation.
Alors c'est lié à la dépigmentation en partie et puis à une anomalie de mise en place des voies visuelles. Parce que l'albinisme, du fait de l'absence de mélanine, fait que la croissance des fibres optiques se passe mal. Donc il y a des troubles à la fois de la pigmentation de l'œil. Quand on éclaire l'œil d'un albino sur le côté, ça devient rouge. C'est un signe qui nous sert pour faire le diagnostic, mais il y a aussi des troubles qui sont liés à des anomalies qui vont entraîner des troubles du champ visuel et qui entraînent ces mouvements, ce strabisme et ce nystagmus.
Alors, qu'est-ce qui se corrige, qu'est-ce qui ne se corrige pas dans les atteintes visuelles, docteur Christophe Orso, qui sont liées à l'albinisme?
Alors, on ne peut pas pour l'instant corriger toutes les anomalies de développement des voies visuelles. Puisque ça, c'est mis en place avant la naissance, donc ça, on ne sait pas le corriger. On ne sait pas corriger les anomalies de la pigmentation, mais on peut compenser soit avec des verres opaques, soit avec des lentilles opaques que l'on peut aussi proposer, qui sont des lentilles peintes et qui font comme un iris et qui protègent. Et puis, on peut corriger les troubles visuels pour que l'œil soit dans les meilleures conditions optiques pour développer la vision.
Alors, Aurélie Kropp, votre fils connaît plusieurs de ces atteintes oculaires, hein, vous l'avez dit. Vous êtes allé voir un médecin, un ophtalmologue normal, ou vous êtes allé dans un centre spécial avec quelqu'un qui a une connaissance précise de l'albinisme?
En fait, l'ophtalmo qui a posé le diagnostic était une connaissance de notre pédiatre. Ça s'était pas très bien passé parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de tact, on n'avait pas été préparé, etc. Donc on a eu un petit rejet. Et en contactant, dès qu'on a le diagnostic, moi je me suis rapprochée de l'association Gène Espoir, l'association française sur l'albinisme. Et eux nous ont conseillé d'aller à Trousseau où il y a une ophtalmo qui suit beaucoup d'enfants albinos. Donc du coup, il est suivi là-bas pour la vue et puis aussi pour la peau.
Nantena Keïta, athlète paralympique, depuis quelques mois, vous êtes aussi, vous me corrigez si je me trompe, membre du conseil d'administration pour le comité d'organisation des JO 2024 à Paris. Vous avez un métier. Comment est-ce que vous avez réussi à concilier toutes ces compétences, tout ce savoir-faire, ces performances même physiques, avec le handicap visuel?
Alors déjà, moi je pense que j'ai eu pas mal de chance dans ma vie. Honnêtement, parce que ne serait-ce que à l'école, dans l'apprentissage, tout à l'heure quand vous disiez la lecture et l'écriture, c'est un moment hyper important et qui va entre guillemets constituer le reste de notre scolarité. Et en fait, moi, j'étais dans une classe où on est spécialisé pour enfants déficients visuels. Donc déjà, j'ai eu cette chance-là parce que j'ai pu apprendre à lire et à écrire dans un cadre assez favorisé.
Est-ce que je peux vous couper en vous posant cette question, Salif Keïta, votre père est albinos lui-même. Est-ce que c'est finalement plus simple de grandir enfant albinos quand on a des antécédents familiaux qui comprennent, qui sont dans une même approche, notamment pour les problèmes liés à la maladie?
Alors honnêtement, moi je pense que oui, parce que quand j'étais en maternelle, je comprenais pas en fait pourquoi les autres enfants me regardaient différemment, pourquoi ils venaient pas instinctivement vers moi, pourquoi ils voulaient pas jouer avec moi, et je me remettais énormément en question. Et un jour, j'en ai discuté avec mon père. Et c'est là qu'il m'a expliqué, il m'a dit « Oui, mais tu sais, tu es différente, tu es albinos. » Et en fait, c'était, entre guillemets, normal, parce que mon père était albinos, parce que dans la vie, dans la rue, je voyais des personnes qui étaient blanches, des personnes qui étaient noires, des personnes qui étaient un peu plus claires, d'autres un peu plus foncées. Et je me suis dit « Bah finalement, il n'y a pas de normalité. » Et finalement, non, il n'y en a pas. On est juste différents les uns des autres, mais ça ne nous définit pas, entre guillemets. Et donc le fait de pouvoir en discuter avec mon père, effectivement, ça m'a permis de comprendre des choses, ça m'a permis aussi de m'assumer, parce que je voyais que mon père, lui...
Il avait réussi sa vie, on va dire.
Exactement, hein. et je me disais, oui, ok, je suis différente, mais quelque part, il n'y en a pas beaucoup des comme moi. Donc j'arrivais quand même à trouver des choses qui me rassuraient, même si honnêtement ça n'a pas été toujours facile. L'adolescence a été très compliquée, mais j'arrivais toujours à relativiser parce que je voyais mon père.
Justement sur cette dimension génétique, docteur Christophe Orso, quand on est par exemple un père albinos, c'est quoi les chances, j'ai pas envie de dire les risques, c'est quoi les chances ou les risques ou l'éventualité surtout d'avoir un enfant lui-même atteint d'albinisme?
Généralement, c'est surtout récessif. En fait, il y a très peu de probabilité d'avoir un enfant albinos. Alors, il y a différentes formes d'albinisme et avec une génétique qui est parfois un petit peu complexe. Donc, il y a des formes plus rares où il peut y avoir une pseudo-dominance. Donc, on peut avoir une dominance et là, il y a un risque sur deux. Mais dans la majorité des cas, c'est plutôt quelque chose qu'on dit récessif avec des parents qui sont non atteints, qui sont porteurs du gène mais qui ne sont pas eux-mêmes, qui n'expriment pas l'albinisme.
Et sur la dimension géographique, docteur Orso, comment on explique cette prévalence beaucoup plus importante, notamment en Afrique ?
Il y a des effets fondateurs en génétique qui fait que certaines populations ont plus de personnes qui ont telle ou telle anomalie, anomalie génétique, donc qui peuvent être albinos. Et puis peut-être qu'il y a également le fait que, comme vous le disiez, dans les populations caucasiennes, quand on a une peau qui est claire, on voit moins les albinos. Et les nordiques, on a beaucoup de mal à savoir si c'est un albinisme ou si c'est des blonds.
Parce qu'il y a un certain nombre de Scandinaves qui ont aussi les cils, les sourcils totalement blancs.
Voilà,
de façon,
tout à fait. Alors, sur les cils et les sourcils, on peut avoir des différences. Le blond n'est pas tout à fait le même. Ça va être un peu plus jaune dans l'albinisme. Le manque de mélanine fait que ça a une teinte un peu différente. Mais si on ne fait pas attention, on peut prendre des gens qui sont albinos pour des gens caucasiens du Nord et on le voit moins.
Christophe Orso, Nantena Keïta, Aurélie Krop, vous restez avec nous, on va tout de suite partir pour le Kenya.
RFI.
Justement, direction l'Afrique de l'Est, ce qui nous permet d'aborder la question de la discrimination dont sont encore victimes les albinos dans certaines régions d'Afrique subsaharienne notamment. Certains sont même tués dans le cadre de crimes rituels. On a beaucoup de cas notamment du côté de la Tanzanie. Au Kenya, ce type d'assassinat est devenu très rare, même si les clichés sur les albinos, eh bien, eux, résistent. Reportage de notre correspondant à Nairobi, Sébastien Nemeth.
Wycliffe Mbeye est très fier de faire visiter son appartement. Installé depuis 17 ans à Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi, il a été un des premiers à bénéficier d'un logement dans cet immeuble réservé aux personnes à revenus modérés.
Ça a été long. J'ai économisé pendant 3 ans pour payer 10% du prix de l'appartement. Le reste, je verse un loyer pour devenir propriétaire au final. J'étais le seul handicapé et le seul albinos à postuler. Le gouvernement m'a donné la priorité.
Wycliffe Mbeye vit cette acquisition immobilière comme un accomplissement après une vie semée d'embûches qui sont apparues dès l'enfance. Originaire du village de Boutéré dans l'ouest du pays, l'homme de 40 ans est issu d'un milieu pauvre et a longtemps souffert de stigmatisation.
Beaucoup disaient que je n'étais pas l'enfant de mes parents. Les gens me traitaient de différents noms, Ritonde, qui est une insulte pour dire homme blanc. D'autres m'appelaient Mpesa, argent, en référence à la Tanzanie où les albinos sont vendus. Bref, ils me voyaient comme quelqu'un de faible, stupide, incapable de réussir sa vie. On me collait une image négative.
S'il n'a jamais été victime de violences physiques, Wycliffe Mbeye a souvent eu peur chaque fois qu'un crime rituel était perpétré en Tanzanie voisine contre les albinos.
J'étais inquiet et je faisais attention, car on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'étais sur mes gardes pour pouvoir réagir rapidement ou contacter la police.
Mais Wycliffe Mbeye s'est battu toute sa vie pour réussir et ses efforts ont payé, notamment sur le plan sentimental.
Beaucoup de gens pensaient que je ne pourrais pas me marier, avoir des enfants. Et au début, quand je vivais dans l'ignorance et le déni, je pensais la même chose. Or, aujourd'hui, je suis même polygame. J'ai 2 femmes, 5 enfants. Quand j'ai eu mon premier enfant, certains ne le croyaient pas. Ils pensaient que quelqu'un avait couché avec mon épouse. Mais j'ai eu un 2e enfant et ils ont commencé à comprendre. De nos jours, les femmes voient que les albinos sont actifs, créatifs. Ce sont elles qui nous courent après. Il y a même des Kenyanes qui me demandent si elles peuvent faire un enfant avec moi. Elles ne veulent pas se marier, elles veulent juste un bébé. Elles pensent qu'elles auront un enfant albinos.
Sa réussite familiale s'est accompagnée d'une réussite professionnelle. Wycliffe Mbeye possède aujourd'hui 2 boutiques où il vend matelas, couvertures et coussins. Chaque magasin est géré par une de ses épouses, comme Jacqueline.
J'accepte sa différence. J'ai compris qu'il était fort, que si j'étais avec lui, je serais en sécurité, qu'il me rendrait heureuse. Dans la famille, certains désapprouvaient. Ils le voyaient comme un handicapé. Ils pensaient que le soleil allait me faire mal aussi, qu'on allait attirer les moustiques. Mais maintenant, c'est différent. Ils disent que c'est un homme blanc et plus un albinos.
Âgée de 27 ans, Damaris Nzissa a une formation en informatique et est aujourd'hui en stage. Elle rêve de devenir réceptionniste. Originaire de la région de Kitwi, elle a pris connaissance de sa différence à l'âge de 5 ans. Un souvenir douloureux.
Ma grand-mère me disait de ne pas rester au soleil et me mettait une casquette. J'étais la seule à en porter. Je me demandais pourquoi. J'ai alors compris que j'étais différente. Mon visage était très rouge. On n'avait pas de crème solaire, c'était très douloureux. Je ne pouvais même plus me doucher.
À la douleur physique s'est ajoutée une douleur mentale, celle du rejet familial.
Ma mère ne voulait pas que les gens sachent que j'étais son enfant. Un jour, je suis allée à son bureau. Elle a dit à ses collègues que j'étais sa nièce. Elle avait tellement honte de moi. Ça me faisait très mal.
Damaris Nzissa a donc été élevée par sa grand-mère. Elle a ensuite rejoint une école pour handicapés où elle dit avoir vécu très heureuse avant d'entrer sur le marché du travail où là encore, les obstacles ont été nombreux.
Les employeurs me rejetaient. Ils disaient que je ne pouvais pas voir. C'était de la discrimination. J'étais capable de faire le travail. Il suffisait que j'approche les papiers de mes yeux. Je me haïssais. Je restais enfermée. Je n'avais pas de petits copains. Je détestais les garçons parce que je ne trouvais personne pour m'aimer. Mais aujourd'hui, sans mentir, je suis heureuse. Je ne me déteste plus. J'ai l'embarras du choix. Je choisis l'homme que je veux.
Ces dernières années, le Kenya a accompli beaucoup de progrès dans l'inclusion des albinos. Daniel Omeno le reconnaît, mais pour le directeur des programmes de l'Albinism Society of Kenya, il reste encore beaucoup à faire.
Ça prend du temps. Dans d'autres communautés que nous n'avons pas encore pu atteindre, cette stigmatisation persiste. Là-bas, beaucoup de gens sont illettrés. C'est encore difficile de trouver des emplois. Peu importe les diplômes, 5% des emplois doivent aller à des handicapés. Mais cela n'est pas encore très bien appliqué.
L'association continue de militer au jour le jour. En 2016, elle a par exemple organisé le premier concours de beauté pour albinos au monde. Mais pour Wycliffe Ambey, il ne faut pas tout attendre de l'ONG et chacun doit se prendre en main.
Certains sont encore dans le déni. Ils ne s'acceptent pas. Entre albinos, ils sont contents, mais en dehors, ils sont seuls. Ils doivent se réveiller, changer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils peuvent faire mieux qu'ils ne le pensent.
Sébastien Lemaitre, Nairobi, RFI.
Reportage au Kenya, Antena Keita, double question liée à l'éducation, aussi bien permettre aux enfants atteints d'albinisme d'étudier, mais aussi éduquer les autres, hein, faire reculer cette ignorance énorme qui continue d'entourer l'albinisme.
Oui, oui, nous, c'est vrai que à la Fondation au Mali, c'est vraiment un objectif qui, pour moi, est important. Comme vous disiez, la première, éduquer, permettre aux enfants d'aller à l'école dans de bonnes conditions. C'est pour ça que nous, on essaye de rencontrer un maximum les professeurs pour leur expliquer ce que c'est que de ne pas bien voir et de leur dire de mettre systématiquement l'enfant albinos au premier rang. On essaye vraiment de faire ça. Et puis après, effectivement, éduquer la population, éduquer les familles. Et c'est un gros mot que je vais dire, mais éduquer l'État. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'eux aussi pour avancer dans notre quête. Et voilà.
Faire passer le message au plus grand nombre, notamment aux acteurs publics. On va dire, ça va être l'infirmière qu'on rencontre, ça va dire l'instituteur qu'on rencontre, ça va dire tous les agents de la fonction publique qui vont pouvoir justement transmettre ce message d'intégration de ces enfants.
Oui, alors au niveau médical, l'effort est fait, on va dire. Mais voilà, il faut vraiment que le gouvernement nous accompagne, qu'il y ait des textes qui soient écrits, des lois qui soient créées. Pour de la discrimination positive, il faut le dire. Aujourd'hui, on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça en Afrique et au Mali.
Aurélie Krop, ces discriminations, hein, carrément des menaces pour la vie de certains enfants. Comment vous réagissez en entendant ça? Est-ce que vous aviez déjà connaissance? Tout à l'heure, vous aviez dit peut-être que vous aviez lu des articles dans la presse. Comment on ressent ça en tant que maman, d'imaginer cette vie des mères qui doivent veiller sur leur couvée, hein, on va dire. On a l'impression un petit peu de voir des mamans antilopes où il y a une espèce de meute qui tourne autour et qui menace la vie. Ça doit être complètement déstabilisant comme maman, comme éducatrice quand on se met dans la peau de ces femmes.
Bah moi, je trouve ça terrifiant. Après, évidemment, je suis pas du tout en position de
juger de quoi
place.
Que ce soit, mais quand même, on voit son enfant comme appartenant, peut-être d'une certaine manière, à une communauté vulnérable.
Bah c'est ça, et c'est vrai que dès que je vois des news ou des enfants massacrés ou quoi, enfin, il y avait encore une histoire il y a 3 semaines.
Au Mali, justement.
Ouais, je me projette dans à quel moment mon fils va avoir conscience de ça, qu'il va avoir ses premières. Des informations horribles, enfin, j'ai vraiment pas hâte que ce soit le moment de lui parler de ça.
On n'est pas obligé d'être informé tout de suite de ce genre de choses. On va prendre tout de suite la direction de Dakar pour vous retrouver, docteur Astou Diouf Kébé. On vous retrouve?
Oui.
La ligne est meilleure et j'espère que ça va durer. Dermatologue, vénérologue, consultation sur l'albinisme à Dakar. Quel type de fausses croyances circulent encore du côté du Sénégal, par exemple, docteur Diouf Kébé?
Bon, alors pour les fausses croyances, il y a d'abord le fait qu'ils sont taxés de différents. Bon, peut-être en Europe, en Occident, le problème ne se pose pas trop. Donc, mais chez le phototype foncé, donc avec des différences de couleur, elle est patente. La différence de couleur est patente et souvent, donc, ils sont stigmatisés, ils sont taxés de différents.
Et c'est quelque chose que est-ce que c'est quelque chose que vous disent justement les personnes qui viennent chez vous en consultation? Est-ce qu'ils racontent justement ces faits de discrimination?
Si, ils s'en plaignent. Ils s'en plaignent. Il y a un impact vraiment psychosocial donc important qu'ils s'en plaignent tout le temps lors des consultations. Juste vous raconter une anecdote aussi. Il y a certains qui pensent aussi que qui assimile, donc les patients le disent, qui assimile albinisme ici en Afrique, là, qui, l'assimilent soit à la pauvreté ou à la mendicité. Juste une anecdote, un patient m'a raconté qu'un jour, donc, dans la rue, donc, un monsieur l'a rencontré et dès qu'il l'a vu, donc, il a pris ses deux mains donc, et il lui a demandé de formuler des prières pour lui. Bon, la patiente, elle est de religion chrétienne, donc elle lui a dit tout simplement « Soyez béni ». Et le monsieur, donc, il a sorti une pièce de 100 francs et il lui a donné. Et elle a été, donc, pour ne pas le gêner, donc, elle a accepté. Mais après, elle s'est dit pourquoi. Elle m'a dit pourquoi il m'a donné la pièce, c'était pas nécessaire. Alors, les autres types de stigmatisation aussi, donc, certains pensent également, donc, les albinos, donc, ils ont des pouvoirs mystiques. Donc c'est pourquoi des fois donc ils sont utilisés donc à des fins mystiques donc qui peuvent aller jusqu'à des sacrifices. Donc ces problèmes également sont rencontrés donc par les personnes atteintes d'albinisme ici au Sénégal.
Est-ce que vous avez l'impression que cette question est suffisamment prise en compte par les pouvoirs publics?
Pas suffisamment prise en compte par les pouvoirs publics. Donc c'est peut-être avec les médias, donc de plus en plus ces fausses croyances sont démystifiées, mais par rapport aux pouvoirs publics, ils font pas grand-chose.
J'ai une question, je m'adresse à vous en tant que dermatologue. J'ai une question Facebook d'un auditeur justement du Sénégal, de Kaola, qui s'appelle Joachim, qui s'interroge. Il est albinos, il a des problèmes de vision, il nous le dit dans son message. Et il parle aussi des problèmes, bien sûr, pour la peau. Et il demande, les crèmes solaires peuvent-elles être fabriquées par nous-mêmes, car c'est compliqué pour nous en procurer. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à Joachim ?
C'est vrai que les crèmes solaires, on a peut-être l'exemple du Mali, donc où les crèmes solaires sont fabriquées localement. Donc c'est toujours possible et on est toujours preneur, mais il faut que ça soit des crèmes solaires de bonne qualité.
Ça veut dire qu'il faut aller vers des pharmacies où il y aura des laborantins qui pourront préparer les crèmes solaires spécialement avec surtout les bonnes formules, les bons ingrédients et aussi les bonnes conditions de conservation.
C'est ça, des indices de protection élevés et qui ne soient pas irritants.
En tout cas, fabriquer nous-mêmes, pas fabriquer à la maison, ça c'est sûr, on peut le dire à Joachim.
Pas à la maison, oui. Pas à la maison du tout, ce n'est pas possible.
Bien sûr, ça c'est fait par des pharmaciens, des gens qui ont les diplômes, le savoir-faire, la connaissance pour le faire. Dernière chose, docteur Astou Diouf Kébé, si vous avez un message en conclusion à faire passer.
Alors, le message à faire passer, j'ai quelques messages donc à faire passer. D'abord, au président des associations. Il faut qu'ils incitent leurs membres donc à venir adhérer à cette consultation. Cette consultation thématique est ouverte depuis plus d'un an et elle compte juste une vingtaine de patients. Vraiment, il faut qu'ils les incitent donc à venir de faire consulter.
Ça veut dire qu'à Dakar, il y a les moyens de se faire soigner, il y a les moyens d'être pris en charge. Il faut que les personnes atteintes d'albinisme et surtout qui ont des problèmes de peau aillent vous voir, pas trop tard, hein, quand on a des rougeurs, quand on a des taches, et aller consulter pour être pris en charge.
Il ne faut pas attendre qu'il y ait une lésion suspecte ou carrément un cancer donc pour venir consulter. Il faut un suivi, il faut venir consulter précocement et continuer le suivi. Aussi un autre message donc à l'endroit des bonnes volontés et des ONG, parce que étant donné que la plupart des patients donc que nous suivons sont démunis, donc nous voudrions assurer un peu la gratuité de la prise en charge. Rien que le ticket modérateur de 1000 francs qui avait été institué n'a pu être honoré par les patients. Donc ainsi, nous lançons un message de sollicitation vraiment et d'appui aux bonnes volontés aux ONG. L'autre message également s'adresse à notre ministère tutelle. Donc c'est le ministère de la Santé. Pour qu'il facilite l'obtention de la carte d'égalité des chances dans le cadre de la couverture maladie universelle pour que ces patients puissent bénéficier d'une couverture médicale. Le dernier message s'adresse à la direction de la pharmacie. Les crèmes solaires sont indispensables chez les personnes atteintes d'albinisme. Donc, il faut faire figurer ces crèmes solaires donc sur la liste des médicaments essentiels et que vraiment qu'elles soient disponibles au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement.
Merci beaucoup, docteur Astou Diouf Kébé. Hein, merci pour ces explications. On le voit, il faut des réponses très concrètes à des problèmes qui le sont tout autant. Je rappelle que vous êtes vénérologue, dermatologue à l'Institut d'hygiène sociale à Dakar. On vous retrouve en studio, Nantena Keïta. Votre fondation, c'est votre père qui a créé cette fondation, double vocation pour cette fondation, information, prévention sanitaire. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain, justement? Là, on entendait le docteur Diouf Kébé à Dakar avoir des attentes très concrètes. Vous aussi, vous avancez sur des points comme ça, concrets, pour venir en aide, on l'a dit, à beaucoup de gens qui, en Afrique, n'ont pas les moyens, tout simplement, de s'acheter des lunettes de protection, de s'acheter de la crème solaire?
Alors nous, effectivement, on essaye de distribuer un maximum des crèmes solaires, mais comme le disait le dermatologue, ces crèmes solaires, on en a besoin quotidiennement. En Afrique, au Mali, sur toute l'année. Donc aujourd'hui, nous, on a du mal à fournir de façon optimale les crèmes solaires à tous nos membres, sachant qu'aujourd'hui à la fondation on a à peu près 1000 personnes albinos d'inscrites. Donc je vous laisse faire le calcul. Donc on essaye au maximum de leur distribuer des crèmes solaires. Et effectivement, on aimerait devenir autonome sur la fabrication de crèmes solaires. Et je suis très contente d'avoir entendu le docteur Diouf, c'est ça, dire que faire des crèmes solaires, c'est très bien, mais il faut être accompagné. Et aujourd'hui, moi, c'est une de mes préoccupations et un de mes objectifs, c'est vraiment de réussir à trouver un laboratoire qui va nous créer une formule pour qu'on puisse devenir autonome sur cette fabrication-là. Parce qu'effectivement, sur Internet, on trouve plein de choses. On va vous dire que prendre une base neutre de crème et rajouter du zinc, ça va faire un écran. Sûrement. Mais moi, je ne prendrai pas le risque de fabriquer ces crèmes-là, de les distribuer en disant « Tenez, protégez-vous avec ça ». Et alors que derrière, je n'ai aucun accompagnement.
Et aucun recul scientifique pour
Exactement.
C'est des responsabilités beaucoup trop importantes. Voilà.
C'est ça. Donc, s'il y a un appel à lancer, s'il y a un laboratoire qui nous écoute, ce sera avec grand plaisir que j'aimerais travailler avec vous, collaborer avec vous. Après, on essaye aussi d'accompagner les familles qui ont des enfants albinos, parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile de faire accepter l'enfant au sein de la famille, parce que quand on a un enfant albino, c'est ben souvent on dit que c'est malheur. Donc voilà, essayez vraiment de les rassurer et de leur expliquer ce que c'est que d'avoir un enfant albinos pour ne pas justement qu'ils se retrouvent dans votre situation et un peu démunis. Voilà.
Alors on va donner la parole à un autre auditeur de Priorité Santé, République démocratique du Congo, Kinshasa, c'est Karel. Bonjour Karel.
Bonjour.
On écoute votre témoignage, Karel.
D'accord, je m'appelle Karel, j'ai 30 ans et je sors d'un milieu totalement intellectuel, mais j'ai toujours rencontré ce problème d'intégration, un problème qui est récurrent d'ailleurs. Il y a tellement des événements, des choses qui sont arrivées, qui parfois enlèvent l'estime de soi-même. Alors, souvent à l'école, à l'université, dans le quartier, parfois des blagues un peu déplacées de certaines personnes. Il faut dire aussi que la superstition est un obstacle majeur dans cette histoire, parce que vous finirez toujours par rencontrer d'une manière ou d'une autre, même quand vous êtes en face des personnes qui sont passées par l'université, qui ont une certaine connaissance scientifique de la chose, mais à un moment, ils finissent toujours par vous poser une question. Ils veulent savoir, est-ce que... Je donne un exemple. On dit que lorsqu'on rencontre un albinos le soir, on finira par rêver de cet albinos, par exemple. Alors, il y a des personnes qui sont peut-être passées par l'université, qui ont un bon cursus, qui parfois te rencontrent et te posent parfois ce genre de questions. C'est un sérieux problème avec la superstition et la fameuse ou l'épineuse question sur l'intégration, qui est aussi un problème majeur, parce que vous pouvez passer par faire un bon cursus, comme moi j'ai un bon cursus, mais vous arrivez quelque part. Il y a toujours cette barrière comme ce voile qu'il y a devant vous. On sous-estime votre capacité. On est parfois étonné de vous entendre parler correctement. On est parfois étonné de voir que vous avez une certaine connaissance dans un domaine bien particulier. Il y a tout ce problème d'intégration qui est un obstacle quotidien. Il faut avoir un mental robuste pour lutter avec et pouvoir s'imposer dans le milieu professionnel ou dans toute autre discipline.
Merci infiniment, Karel, pour ce témoignage. Nantena Keita, cette détermination au-delà des apparences, c'est quelque chose aussi qui vous a animé depuis toute petite?
Disons que ce qui m'a animé, moi, c'est surtout que je voulais tout faire comme les autres. Moi, j'ai pas tout à fait tout fait comme les autres, mais c'est vraiment ce qui m'animait. Et ce qui m'animait aussi, c'était que je ne voulais pas que mes parents s'inquiètent pour moi. Donc du coup, j'ai essayé de mettre en place des choses en tout cas qui permettaient qu'ils soient rassurés et qu'ils se disent bon bah finalement elle est atteinte d'albinisme, mais elle s'en sort très bien. J'avais des petites sœurs et des petits frères. Et voilà,
ils sont pas atteints eux. Vous êtes la seule ou
Non, on est deux. Mais voilà, la deuxième est toute petite. Quand j'étais jeune, elle était pas encore née, mais j'avais envie de donner quand même cette image-là de la grande sœur auprès de mes petits frères et sœurs. Et puis c'est surtout que moi, je me dis que tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas dire qu'on peut pas le faire. Donc d'abord on essaye, peut-être qu'on échoue, on réessaye et on essaye de voir ce qui va nous permettre d'y arriver un peu mieux la prochaine fois.
En même temps, vous l'avez souligné, vous étiez né dans un milieu un petit peu particulier qui fait que par rapport à certains enfants qui vont être en milieu isolé, etc., ça va peut-être être pour eux un petit peu, voire carrément plus compliqué.
Oui, non, c'est sûr. Après, le moment le plus compliqué, c'est s'adapter. C'est de s'assumer, pardon. Une fois qu'on s'assume et qu'on connaît nos qualités, qu'on connaît nos faiblesses et qu'on arrive entre guillemets à gommer un petit peu les faiblesses et les difficultés. Après, voilà, il faut essayer en tout cas.
Docteur Christophe Orso, on vous a pas beaucoup entendu. Je vais vous donner peut-être le mot de la fin. Vous êtes ophtalmologue. Comment se passe justement toute cette dimension, on va dire, non médicale dans la consultation? Quand on a un enfant albinos, un adulte albinos qui va arriver, d'accord, il a un problème de vue, mais il a aussi un problème de souffrance personnelle. Comment vous faites?
Alors, en fait, il faut surtout demander comment ça se passe et essayer de trouver avec lui des solutions pour compenser, parce que c'est très important finalement d'abord de faire comprendre aux autres que ces gens ont un problème de vue, mais ont des capacités visuelles qui peuvent être totalement développées et qu'ils peuvent voir, pas normalement, mais qu'ils peuvent faire beaucoup de choses, beaucoup plus que les gens ne croient. Et finalement, quand on dit qu'on voit mal, les gens, on est soit aveugle, soit on voit bien. La différence entre les deux, les limites entre les deux, les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. Et les gens qu'on a en face de soi, quand on va chercher un emploi, quand on est avec des professeurs, si on dit « ils voient mal », les gens se disent « mais alors ils voient rien ». Mais si, il voit, il a des capacités visuelles. Donc en consultation, on essaie d'appréhender ce niveau visuel, comment les autres le perçoivent, et d'essayer de trouver des solutions, des adaptations pour aider la personne. Parce que c'est ça qui est très important, de trouver finalement, d'aider la personne à trouver elle-même aussi ce qui va l'aider pour avoir une bonne vision.
Nantena Keita, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit, en termes bien sûr aussi bien de santé physique que justement d'acceptation du monde, d'ailleurs de vous-même, vous l'avez dit, hein, s'assumer, mais aussi de ce monde autour de vous qui vous accepte. Vous vivez aussi aujourd'hui moitié entre peut-être la France et le Mali, les différences entre ces deux perceptions?
Alors moi, effectivement, il y a deux perceptions différentes. En France, on va souffrir, on va dire, de la différence et des moqueries, mais dû à une différence pas particulièrement à l'albinisme. Et en Afrique, ça va être vraiment voilà le côté albinos, stigmatisation, croyance. Même si les choses commencent à changer, il faut quand même le souligner, c'est très 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 lent, mais je pense que voilà, il faut quand même souligner ce petit changement qui s'opère. On va continuer à en parler, on va continuer à éduquer les gens là-dessus. Et puis moi, surtout ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que on est albinos, mais on est avant tout des personnes. On est avant tout des êtres humains et on a une différence comme tout le monde, aucun être humain n'est identique, à part les vrais jumeaux. Mais aujourd'hui, tout le monde est différent. Et moi, alors peut-être que je me répète, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Aujourd'hui, cette différence-là, c'est ce qui fait la richesse du monde. Si on était tous identiques, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait ? Enfin voilà, aujourd'hui, on doit se nourrir de la différence de chacun et cette différence doit pouvoir profiter à chacun. Chacun doit se nourrir des qualités de cette personne-là, des différences de cette personne-là pour avancer ensemble. On est tous des êtres humains et le bonheur de quelqu'un ne doit pas passer par le malheur, par l'assassinat et le massacre d'une autre personne. Donc, cessez tout ça. Arrêtez de croire que tuer un enfant albinos va vous permettre d'avoir du pouvoir. Si c'était aussi simple que ça, mais honnêtement, tous les albinos aujourd'hui seraient tous milliardaires, seraient tous présidents de la République, travailleraient tous à la NASA, mais c'est pas ça.
Mais c'est vrai, j'allais vous dire, vous seriez déjà sur la Lune ou quelque part.
Mais bien sûr, mais bien sûr, moi j'aurais fait des allers-retours, mais tous les quatre matins. Donc c'est pas ça la vie. La vie, c'est on doit apprendre à vivre ensemble avec nos différences.
Ouais. Une question, Aurélie Kropp, votre fils a 4 ans, c'est un peu un âge où on dit j'ai envie de faire ça quand je serai grand, je veux faire tel métier, il veut faire quoi lui plus tard ?
Il veut être pompier, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on ne le limite pas parce qu'on sait qu'il n'aura pas le droit de conduire légalement, mais nous on lui dit qu'il pourra tout faire et qu'il est effectivement très très beau, enfin, moi dès que je le vois tous les matins je suis éblouie par ses cheveux, par ses yeux, enfin...
Docteur Christophe Orso, quand un albinos vient pour un problème oculaire, est-ce qu'il va être directement réorienté vers une prise en charge multidisciplinaire ? En tout cas, est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous avez dit à des parents, il va falloir penser à la peau et puis peut-être même un accompagnement psychologique éventuellement ?
Alors, systématiquement pour les consultations dermatologiques et puis systématiquement aussi pour mettre en place tous les accompagnements, en particulier pour l'école.
Pour la prise en charge du handicap.
Pour la prise en charge du handicap. Pour qu'il soit dans les meilleures conditions et qu'il ait les aides dont il peut bénéficier pour toutes les prises en charge, à la fois visuelles, les crèmes et autres. Donc oui, on s'en charge systématiquement.
Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé à l'occasion de cette journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. C'est tout juste la troisième. Merci docteur Christophe Orso, ophtalmologue, neuro-ophtalmologue, responsable de l'unité fonctionnelle d'ophtalmologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Merci Nantena Keïta, présidente de la Fondation Salif Keïta, et à vous Aurélie Kropp pour votre témoignage. Un autre rendez-vous sur RFI consacré à l'albinisme aujourd'hui, couleur tropicale, Claudie Ciard, 20h10 temps universel, Johnny Chancel, son groupe Les Anges Blancs. Claudie les avait rencontrés à Brazzaville il y a quelques mois. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout ça, Maki, Ophélie, la scène, Didier Bleu. Demain, nous allons parler du don du sang. Si vous voulez témoigner, poser une question, notre numéro de téléphone 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.